Je me trouve toujours au centre d'accueil et de découverte du secteur nord dans le parc national Forion. On est super bien installé dans le secteur de Cap-des-Rosiers aujourd'hui pour Caro sur la Go. Et on va continuer de vous parler de ce qui est possible de faire dans le secteur, cette fois-ci en compagnie de Pierre Etchevry, qui est biologiste et coordonnateur de projet ici au parc Forion. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Écoute, Pierre, toi, tu as eu la grande chance dans ta carrière de faire tout qu'un projet qui se déroule depuis déjà 10 ans. Tu en fais plusieurs là depuis des années, mais un projet de renaturalisation, comme tu viens de faire pour le secteur des étangs des castors, de castors, c'est vraiment dans une carrière quelque chose d'assez unique parce que ça implique beaucoup de choses. Le visage de Cap-des-Rosiers a beaucoup changé dans les dernières années. On a même déplacé une route, faut quand même le faire. Parle-nous de ce projet-là de renaturalisation ici dans le secteur nord de Cap-des-Rosiers.
Oui, ben c'est un projet qui s'inscrit dans un très vaste projet qui, lui, est mené depuis une dizaine d'années. Qui a consisté à changer de place la route 132 parce qu'elle était fortement, disons, gênée par la présence de castors. Mm. Et une fois changée de place, il y a une portion de cette route qui a été abandonnée, une portion d'à peu près 6 kilomètres qui a été abandonnée. Et habituellement, quand une route est abandonnée, on la laisse abandonnée et on ne fait pas grand-chose avec. Mm. Le parc a choisi de la renaturaliser sur tout le tracé abandonné. Et c'est effectivement ce qu'on a fait depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Là, on a travaillé spécifiquement à renaturaliser cette cicatrice de route-là. Mmh. Et c'est donc une partie d'un projet plus large. Je disais tout à l'heure que la route 132 a été déplacée. Il y a eu aussi la création du nouveau centre d'accueil et de découverte qui faisait partie de ce grand projet-là. Mmh. Et toute la restauration de la plage de Cap-des-Rosiers également. Alors voilà, c'était un projet très vaste dont un petit morceau, ou en tout cas un beau morceau, consistait à renaturaliser la route.
Oui, et quand on dit qu'on renaturalise, il faut comprendre que d'habitude, quand tu le mentionnais, on laisse la route là, c'est-à-dire que l'asphalte va rester là puis la nature va reprendre ses droits autour de l'infrastructure. Mais oui, c'est pas ça que vous avez fait, parce que là, vous les avez même retiré l'asphalte, les assises, les ponceaux. Et je pense que le meilleur endroit pour visualiser tout ça, c'est en allant dans les nouveaux sentiers de randonnée pédestre et de vélo que vous avez inauguré d'ailleurs en fin de semaine, le 19 juillet dernier. Mm-hmm. 3 nouveaux sentiers, donc, qu'on peut, je dirais, non seulement rouler, mais aussi marcher. Et j'aimerais que tu nous parles de ces sentiers-là, parce que ça vient vraiment agrémenter le réseau de sentiers, parce que maintenant, ils sont interreliés. Donc, ça enrichit l'expérience quand on vient dans ce secteur-ci.
En effet. Le premier de ces 3 sentiers va du centre d'accueil de découverte jusque proche de la chute. C'est un sentier multi-usage, donc tout le monde est invité à venir profiter de ce sentier-là, qu'on soit marcheur, cycliste, qu'on soit en chaise roulante, peu importe. Mmh. Ce sentier-là est tout à fait praticable.
Et la chute est impressionnante, comme toujours.
Oui, oui. Mais pour se rendre à la chute, c'est le deuxième sentier qui est un peu différent du premier, qui fait 2 kilomètres lui aussi, et qui se rendra donc à travers bois jusqu'à la chute. Avec un sentier d'un niveau de difficulté un petit peu plus élevé, mais qui reste quand même relativement familial et relativement accessible. Et puis le troisième sentier, c'est un sentier de randonnée pédestre uniquement, mm-hmm. qui fait une boucle d'à peu près 3 kilomètres autour des étangs de castors, en forêt et en profitant de différents types d'habitats et en profitant de l'extraordinaire biodiversité du coin.
Oui, parce que selon tes propres mots, Pierre, ce coin-là, à Cap-des-Rosiers, c'est... Je vais te le dire, je vais te laisser le nommer parce que c'est beau quand tu le nommes. Pour toi, c'est vraiment un endroit où il se passe quelque chose de grand, au point de l'appeler...
Oui, c'est un des hotspots de biodiversité du parc. Puis, je dis pas ça juste parce que c'est un bel endroit plein d'espèces différentes. C'est vraiment parce qu'on l'a mesuré. Mm. Il y a 2 ans maintenant, on a fait un portrait des amphibiens et reptiles dans le parc. Et au travers de ce portrait-là, on a identifié 3 sites qui sont vraiment marquants du point de vue de la biodiversité. Et le secteur du castor est un de ces 3 sites-là. Oui. Alors comme c'est un site qui est extrêmement accessible... qui est en plus aménagé pour que toute la famille puisse profiter de cette extraordinaire biodiversité-là, ben ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un œil dans ce milieu-là qui est à la fois aquatique, à la fois forestier, à la fois en partie créé par des castors, en tout cas un paquet d'habitats différents qui satisfont un paquet d'espèces différentes.
Ouais. Voilà. Et un des éléments de ce sentier-là qui est vraiment là, premièrement, c'est tout nouveau, tout neuf, la surface est incroyable, la nature est belle, elle est diversifiée, mais à différents endroits, on peut observer justement la cicatrice laissée par l'ancienne route que vous avez déconstruite, et on voit à quel point la nature, elle est tellement plus forte que tout, parce que déjà, ça repousse, puis on a de la misère à imaginer qu'il y avait une route, la 132, à cet endroit-là. Oui.
En fait, l'essentiel des travaux de renaturalisation ont eu lieu pendant l'été 2024. Et depuis l'été 2024, ça fait tout juste un an.
Hein. Oui.
On dirait que les sentiers de randonnée ont toujours été là. Puis en fait, pas du tout, ils ont juste un an. Et la nature a tout de suite repris ses droits dans un milieu qu'on a remodelé exprès pour que la nature reprenne ses droits.
Oui. Mais ça, c'est intéressant parce que non seulement ça nous permet de comprendre quand on l'observe à quel point la nature est forte et à quel point aussi un castor est déterminé. Oui. Parce que si vous avez dû faire tout ça, c'est parce que le castor, comme tu le mentionnais tout à l'heure, créait plein de situations, donc notamment des inondations de routes parce qu'il faisait des barrages partout. Mmh. Donc, ça nous rappelle à quel point on peut pas se battre contre la nature et la faune jusqu'à un certain point.
Oui, en fait, on pourrait se battre contre les castors et c'est habituellement ce qui se fait en temps normal dans beaucoup d'endroits où les castors représentent, on va dire, une gêne pour nos activités.
Oui.
La plupart du temps, on les sort de là et on fait nos activités quand même. Dans le cas du secteur du castor ici, on a choisi de laisser le castor reprendre ses droits. Et on a même favorisé la chose, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser la route en place, on a carrément transformé l'assise de la route pour faire en sorte que le castor puisse réoccuper la surface qu'occupait la route avant. Et donc les étangs de castor reprennent leur forme naturelle le plus possible, que le castor y retrouve son compte en s'installant. Puis le fait est que dès le début de cette année, à plusieurs endroits où les travaux ont été faits, les castors sont de nouveau présents et ont repris vraiment leurs activités normales.
Et d'ailleurs, si on est chanceux, on va peut-être pouvoir même les observer parce que ils sont présents dans c'est quoi les conditions propices pour observer des castors? Quand c'est chaud,
c'est pas très bon de toute façon, quelle que soit la faune qu'on recherche là.
Voilà.
Évidemment, il y a des saisons meilleures que d'autres et le printemps et l'automne sont des très bonnes saisons pour observer des castors actifs, surtout l'automne. Mm-hmm. Et évidemment, à l'intérieur d'une même journée, plus c'est tôt le matin ou tard le soir, plus on a des chances de les voir en activité. En particulier, quand c'est la saison de travail pour constituer des réserves pour l'hiver, donc pendant l'automne, le castor est très 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 actif là, dans le secteur du castor justement, et on a de bonnes opportunités de l'observer dans son milieu naturel. Oui.
Et je pense que ça vient remettre en valeur le fait que peu importe la saison où on visite le parc Forion, on va observer des phénomène ou une présence différente, une occupation différente de la nature et de sa faune, sa flore. Mm-hmm. Toi, tu es dans les sentiers à tous les jours, tu es sur le terrain, puis même encore ce matin, tu disais j'ai découvert une nouvelle espèce de fleur que tu n'avais jamais vue.
Jamais vue dans le parc, oui. C'est une des forces de nos grands parcs nationaux. Ce sont des territoires protégés dans lesquels la nature... jouit d'une pleine capacité à s'exprimer, disons. Mm-hmm. Et très régulièrement, chacun de nous en conservation, bien qu'on travaille dans le parc depuis plusieurs années maintenant, on a des surprises. On a des surprises, des choses un peu inattendues, soit liées au changement climatique, soit liées au fait que certaines espèces sont plus rares que d'autres et on a du mal à les observer. Mm. Et donc c'est ça, ce matin, une nouvelle espèce d'orchidée qui n'avait, je pense, jamais été aperçue dans le parc a été observée ce matin, oui.
Et c'est incroyable, pareil. Et ça nous rappelle l'importance de garder les yeux bien ouverts, mais aussi le cœur pour accueillir tout ça, tu sais, de redécouvrir des endroits ou même, dans ce cas-ci, les découvrir parce que ce sont des nouveaux sentiers. Et j'invite les gens à se les approprier.
Certains.
Il y a différentes distances, donc des 3 kilomètres.
Oui, 2-3 kilomètres à peu près à chaque fois.
Et on peut les combiner et faire quelque chose comme un 7 kilomètres en prenant le temps d'observer à cause des différentes stations d'observation que vous avez installées, observer cette biodiversité-là à l'œuvre, dont le castor, qui est quand même la figure emblématique
en
de
effet.
Parc Canada
oui.
et du Parc national Forion. Pierre Etchevry, on pourrait jaser encore longtemps, tellement que tu es une mine d'or d'informations. Je rappelle que tu es biologiste et coordonnateur de projet ici même au Parc national Forion. Merci beaucoup d'avoir travaillé aussi fort à nous faire redécouvrir un milieu qui était tout juste là, mais qu'on met en valeur encore plus maintenant avec ces nouveaux aménagements.
C'est moi qui vous remercie, Caroline.
Donc, on va faire une autre pause musicale. Cette fois-ci, en musique, on va avoir M. Lou avec Cette maison. Elle sera en spectacle, elle aussi, au phare de Cap-des-Rosiers. Plus tard cet été, le jeudi 28 août à 19h, M. Lou, toujours aussi intéressante à voir sur scène. Et on se retrouve après en compagnie de Virginie Gitteau, qui est présidente du conseil d'administration du phare de Cap-des-Rosiers, qu'on a la chance de visiter à nouveau cet été. Alors, on se retrouve le temps d'une petite pause musicale.